La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
C'est l'événement du jeudi, on l'appelle comme ça, je le surnomme comme ça, François-Olivier Gisbert est notre esprit.
Bonjour libre. David.
Ça va bien?
Bien.
En forme?
Oui.
Alors on va commencer par un sujet qu'évoquait à la fois Guillaume Tabar et Hervé Gattegnaud à l'instant. Le Premier ministre qui répondait hier pour la première fois seul aux questions des députés dans un nouveau dispositif voulu par la présidente de l'Assemblée nationale pour créer un regain d'intérêt sur les questions au gouvernement. Ouais, ouais. C'est-à-dire le Premier ministre un peu à la forme anglaise qui répond seul aux questions des députés. Et évidemment il a été sollicité sur tout un tas de sujets. Et il a annoncé avoir installé un groupe de travail pour réfléchir à la fiscalité des rentes. La fiscalité des rentes, on peut parler de tout en parlant de fiscalité des rentes.
Vous connaissez l'histoire de la CRIM, la contribution sur la rente inframarginale des producteurs d'électricité?
C'était le nom d'un film, la CRIM.
Ouais, la CRIM. Bon, elle a été inventée en 2022, cette taxe sur la rente, pour faire entrer 4 milliards 300 millions dans les caisses. À la fin, elle n'a rapporté que 330 millions. Alors là, tout le monde l'a fait, mais je le fais quand même. La CRIM ne paye pas. Alors, Gabriel Attal veut quand même essayer de taxer les rentes, après cette déplorable expérience de l'année dernière. Sur le papier, ça a l'air très bien. C'est social, comme disait Georges Marchais, vous savez, autant jadis. Et puis, c'est aussi très démago. Parce que, quelle rente faudrait-il taxer? Les loyers perçus? Les produits boursiers? L'impôt sur la fortune immobilière que l'on pourrait augmenter ou étendre aux biens financiers. Enfin, il y a un problème. Tout ça est déjà taxé. Et c'est empilé encore les impôts les uns sur les autres. Alors que nos dépenses publiques, je vous signale, c'est là quand même qu'on peut regarder. Dans une entreprise normale, quand il y a des problèmes, on regarde pas forcément du côté des recettes. On regarde du côté des dépenses. Mais nous, les pouvoirs regardent du côté des recettes fiscales. Voilà. Ils n'ont toujours que ce mot à la bouche. Mais du côté des dépenses, on bat tous les records du monde de dépenses publiques, 57,3%. Il y aura un peu de travail à faire là-dedans.
Ouais, attendez, par exemple, je vous interromps. On le dit jamais assez, l'essentiel, beaucoup des dépenses publiques sont liées à la rémunération des fonctionnaires. On dit depuis plusieurs années, notamment depuis le Covid, que dans certains domaines stratégiques de l'État, on n'embauche pas assez, on n'a pas assez d'effectifs.
Bah,
on
le
dit
dans
la police,
bien sûr,
à l'hôpital, etc. Vous qui avez l'expérience des entretiens à très haut niveau avec des premiers ministres, des chefs d'État français, vous avez parlé des économies budgétaires avec eux. C'est un sujet qui revenait où finalement, ça les intéresse pas, les présidents, de savoir où on peut faire des économies.
Je crois que ça intéressait beaucoup du temps du général de Gaulle.
Hein, oui, avec l'histoire du timbre.
Sujet... Enfin, non, c'était pas l'histoire du timbre, c'était de Gaulle voulait des budgets équilibrés sous l'influence de son grand économiste Jacques Rueff voulait vraiment l'équilibre, c'était l'obsession, pas de déficit. Alors de temps en temps il y a un peu de déficit, mais il a réussi à tenir, ça a continué sous Pompidou, sous Giscard, et depuis 1981 nous sommes sur le grand toboggan des dépenses publiques. C'est pas grave, ça va s'arranger. D'ailleurs regardez, Emmanuel Macron il avait promis qu'il supprimerait 120 000 postes de fonctionnaires au premier quinquennat, on attend toujours. Hein. À la fin du deuxième quinquennat, il y en aura évidemment beaucoup plus que quand il est arrivé au pouvoir. Alors, simplement, je ne dis pas qu'il faut supprimer les fonctionnaires, c'est idiot, parce qu'on a besoin de fonctionnaires dans la justice, l'éducation nationale, la sécurité, tout ça, on est évidemment d'accord. Mais enfin, vous savez, les fonctionnaires, il y en a quand même sans doute un petit peu trop, globalement. Et ça donne raison à l'extraordinaire Georges Clemenceau qui autrefois disait, enfin c'est une formule absolument incroyable, qui n'a pas vieilli du tout, Georges Clemenceau disait, la France est un pays très fertile, on plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts. Voilà.
C'est une formule que les Français adore. On est gouverné par des experts, il y a des gens très intelligents à Bercy, sont bardés de diplômes. Quelles sont les pistes d'économie aujourd'hui dans le budget? C'est difficile à identifier. Parce que si on savait où sont les pistes d'économie budgétaire, là, je peux vous dire que Gabriel Attal, il parlerait
là,
pas d'un,
là vous parlez,
d'un
vous
conseil des rentes ou d'un comité d'experts.
Vous parlez comme un premier ministre ou un ministre
d'aujourd'hui. Ah, ça y est, c'est ma faute.
Non, mais peut-être que vous pourriez d'ailleurs vous orienter vers ces nouvelles activités un jour. Mais moi, je regarde ce qui se passe ailleurs et je vois des pays qui réussissent à baisser drastiquement leurs dépenses publiques, qui avaient augmenté, par exemple, au moment du Covid, je pense à l'Allemagne, ou le Danemark, Bompard, qui avait une espèce de gestion social-démocrate, brusquement, il décide d'arrêter, il baisse de 5-6 points. Alors, si les Danois ou les Allemands sont capables de le faire, je ne vois pas pourquoi les Français ne pourraient pas le faire. Impossible n'est pas français.
Votre définition de la rente, Franz-Olivier Gisbert, parce que le mot rente est devenu un gros mot. Et c'est incroyable, ces dernières années, la capacité de je ne sais qui d'ailleurs à transformer des mots comme profit, rente, super profit, etc., etc., en gros mots. C'est des mots qui deviennent piégés aujourd'hui. Vous dire, ah ben lui, il a une rente, alors ça y est, c'est comme s'il avait piqué son argent.
Ça vient de l'extrême gauche, il faut bien dire. C'est pas un mot que vous trouvez dans les magazines financiers. C'est un mot qui a été utilisé sans doute d'abord par l'extrême gauche pour qualifier n'importe quoi.
Mais comment font-ils pour infuser ce vocable, ce vocabulaire? Comment font-ils pour le rendre polluant, le rendre toxique?
Il faut peut-être regarder du côté des médias, cher David. Je suis désolé de vous le dire, mais oui, je pense que c'est du côté des médias qu'il faut aller voir.
Moi, j'utilise des baguettes avant de me servir de ces mots et je mets des barbelés autour. Bien sûr, l'Écosse. Alors, entrée en vigueur lundi en Écosse d'une loi contre l'incitation à la haine. Elle provoque une vive polémique. Elle est destinée à punir les agressions, notamment à l'encontre des personnes transgenres. Et elle est perçue par ses opposants comme une menace à la liberté d'expression. J'ai lu ça dans un journal et évidemment, on en parle parce que dans le collimateur de cette loi, que font respecter évidemment les utilisateurs des réseaux sociaux, il y a la maman d'Harry Potter qui vit à Édimbourg, qui vit en Écosse, J.K. Rowling, et elle persiste et signe à dire que un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, et que quelqu'un qui a ses règles c'est plutôt une femme. Et pour cela, elle a été taxée il y a quelques années de transphobie.
Ah oui, violemment.
Et elle est devenue une militante de la liberté d'expression, mais pas nécessairement une homophobe ou une transphobe, mais elle dit on doit pouvoir dire ce qu'on veut de vouloir dire.
Bon, alors d'abord l'Écosse, c'est un petit pays, hein, 5 500 000 habitants. Faut pas oublier que l'Écosse a donné au monde l'écrivain Robert Louis Stevenson, l'île au trésor, ça vous dit quelque chose, l'explorateur David Livingstone, l'acteur Sean Connery, et puis aussi Sir Arthur Conan Doyle. Bon, il y a un an, l'Écosse s'est donné un premier ministre né à Glasgow et d'origine pakistanaise, Hamza Haroun Yousaf. Il a 38 ans, il est musulman, il est fier de l'être, il a l'air assez sympathique d'ailleurs, il fait ses prières sur Twitter ou X, si vous préférez, ce qui est son droit. Mais Françoise Bergeau-Blaclair, qui est la grande spécialiste de l'islam radical, et particulièrement des frères musulmans, nous apprend qu'il est le premier chef de gouvernement européen proche des frères musulmans. Une organisation qui n'est pas composée d'enfants de cœur, mais de militants malins, un peu hypocrites aussi, et chevronnés, qui travaillent en douce à l'islamisation de l'Europe. Hein, y a des tas de textes qui le montrent. Bon, en plus, Hamza Haroun Yousaf est wokiste. Oui, il est islamiste donc et wokiste. Ça rime, hein. Ça n'a pas grand-chose à voir a priori, mais ça rime.
Bah si, il y a la convergence, c'est la convergence des luttes.
Des luttes comme dirait Mélenchon, voilà.
Les
voilà.
Trans,
intersectionnelles, mais enfin
les
bon.
Les musulmans stigmatisés, etc.
Oui, mais enfin,
etc.
Bon, oui, mais enfin, bon, y a pas un grand rapport entre l'islam et le wokisme. Vous voyez très bien que c'est pas du tout la même chose. Et c'est la double peine pour les Écossais, si vous voulez. Et dire, il vient donc de faire cette loi, enfin cette loi, elle a traîné assez longtemps hein, au Parlement écossais, et maintenant elle est adoptée et elle veut réprimer. Attention, c'est important ce mot-là, les propos pénibles à entendre. Je répète, elle veut réprimer donc les propos pénibles à entendre, et pas seulement l'incitation à la haine, hein, qui porterait sur la religion, l'orientation sexuelle ou l'identité transgenre. Donc la loi s'applique, c'est ça qui est intéressant, aux propos tenus en ligne ou en public, mais aussi chez vous, dans votre foyer, jusque dans votre salle de bain. Alors, les enfants pourront dénoncer les parents, bien sûr, et inversement, sans parler des voisins entre eux. Et puis un jour, peut-être, faudra faire une loi aussi pour comment dire, départager les uns et les autres, des lois qui instaurent la vidéosurveillance à l'intérieur des appartements.
Hein, c'est Big Brother, pour vous, c'est Big
George
Brother.
George Orwell sort de ce corps. Alors voilà où on en est, c'est-à-dire le blasphème est désormais criminalisé dans une partie de l'Europe, hein, en Écosse donc, faut le dire, comme au Moyen-Âge. Dans le reste de la Grande-Bretagne, les partisans de la liberté d'expression, évidemment, sont vent debout. Vous avez parlé de J.K. Rowling, la romancière de la série des Harry Potter, et qui s'indigne, pas seulement d'ailleurs à propos des transgenres, et s'indigne que les législateurs écossais ne s'intéressent qu'au sentiment des hommes, c'est son expression, et se fichent pas mal de défendre les femmes contre la misogynie. Comme par hasard. Puis Rishi Sunak, le premier ministre britannique, d'origine indienne, lui, c'est évidemment violemment indigné. Mais bon, la loi a été votée, l'islamo-wokisme est en marche, on ne voit pas bien ce qu'il arrêtera. Vous me direz, du kilt, c'est-à-dire la jupe écossaise pour hommes, à la robe musulmane, la djellaba ou le kamis saoudien, c'est qu'une question de longueur du tissu, n'est-ce pas ?
Et de hauteur des chaussettes. Franz-Olivier Gisbert, vous me décrivez un processus inversé. C'est-à-dire que les forces qui se réclament du progrès, de la gauche, voire de l'extrême gauche, sont dans la censure, ce qui était autrefois l'apanage de la réaction et des conservateurs. Et voilà les conservateurs, les sociolibéraux, partisans de la liberté d'expression, les gens de droite donc. Comment vous expliquez cette inversion des prises de position, où finalement on se retrouve aujourd'hui avec des partis conservateurs qui défendent les valeurs des hussards noirs de la République, laïcité, liberté d'expression, et puis des gens de gauche qui se mettent à mettre des contrôles, des polices de la pensée un peu partout.
Alors là, vous l'avez enlevé de la bouche, parce que c'est exactement le problème. Nous sommes aujourd'hui cul par-dessus tête sur tous les sujets. C'est ce qu'on peut appeler l'inversion des valeurs. La gauche a toujours été pour le travail, maintenant elle est contre. Vous voyez, enfin, tout ça, on peut, c'est indéfini. Et c'est clair qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille d'une reconstruction, parce que tout ça, évidemment, est à reconstruire, puisque tout est par terre.
Un mot sur deux affaires qui sont des affaires où la justice, selon vous, marche sur la tête. C'est l'affaire Julien Bayou et la perquisition diligentée et l'enquête diligentée par le parquet national financier concernant le maire du Havre et une élue du Havre.
Voilà, ça fait longtemps que je préviens nos personnalités politiques, hein, vous êtes témoins, surtout les présidentiables. Édouard, il fallait pas être de droite, sinon on devient du gibier de potence pour le parquet national financier, voilà le travail. Le PNF, faut dire ce que c'est, de plus en plus, il apparaît comme le bras armé de la gauche judiciaire. Vous allez me dire, Édouard Philippe a peut-être des choses à se reprocher, il n'y a pas de fumée sans feu, en ce cas, je serai le premier à le dire. Mais je crains que le PNF ne cherche qu'à intimider, à l'intimider en lui accrochant des grelots, comme il l'a déjà fait pour Laurent Wauquiez, autre candidat potentiel, en attendant de le faire avec les autres, à droite d'ailleurs uniquement. En matière de justice, je dirais que le pompon, quand même, revient aux écologistes qui ont décidé d'ouvrir un appel. Alors là, c'est quand même un truc de fou. Un appel à témoins auprès de leurs milliers d'adhérents pour qu'ils dénoncent d'éventuels comportements coupables de leur ancien chef, leur ancien patron, Julien Bayou, auprès de la gente féminine. C'est une première. Il n'y a pas qu'en Écosse que le monde est devenu fou. Hein. L'écosystant, hein, c'est comme ça qu'il faut dire, peut-être, a fait tache d'huile. Sa devise n'est plus « aimez-vous les uns les autres », mais non, c'est « dénoncez-vous les uns les autres », comme chez les escrologistes.
C'est le mot.
Les escrolo-colo-gauchistes. Hein.
Oh bah ouais, vous inventez des mots chaque semaine. C'était le jeudi de Franz-Olivier Gisbert. Message sur notre site, toujours excellent, Franz-Olivier Gisbert. On réécoute avec délice cette conversation sur radioclassique.fr dans quelques minutes. Il est né un 4 avril, Elmer Bernstein. Il avait signé la musique des 7 mercenaires. On va la réécouter tout de suite. Il était né un 4 avril 1922. À la semaine prochaine, France.